Salut, c'est le Magecko et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour une émission spéciale avec, on va le répéter puisque c'est ce qu'on pense, une rockstar de l'économie, comment l'appeler autrement ? Son précédent livre, Le Capital au XXIe siècle, a été traduit en 40 langues, il a été acheté à plus de 2,5 millions d'exemplaires, 976 pages sur la question de la répartition des richesses que des lecteurs partout sur la planète ont donc voulu avoir en main, ne parlons même pas de la tournée mondiale qui a suivi la publication. Célèbre, admiré, décrié, aujourd'hui notre économiste revient avec cette fois 1232 pages, ça s'appelle « Capital et idéologie ». Comment lutter contre les inégalités ? C'est toujours la question. Voici un livre d'histoire globale, voici une enquête mondiale et voici des propositions qui se débattent. Bonjour et bienvenue Thomas Piketty.
Bonjour.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de moi pour vous interviewer, l'équipe au complet d'On n'arrête pas l'écho. Madame Vioboulot, Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Je salue aussi en régie Coy Nguyen, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et Louis Audebert qui nous accompagne ce matin à la technique. Alors Thomas Piketty, avec ce livre, vous continuez de fouiller l'histoire des inégalités et on va discuter longuement de ce que vous avez éclairé dans ces pages, compris de ce que vous proposez. Mais d'abord, je voudrais interroger votre ambition avec ce livre. Vous déplorez, vous écrivez, je vous cite, « une appropriation citoyenne limitée des questions économiques et financières qui sont trop souvent abandonnées à d'autres ». Bref, ce que vous dites aux citoyens qui se sentent impuissants aujourd'hui, c'est qu'il va falloir se jeter dans l'arène, s'armer intellectuellement. Vous avez une ambition politique.
Oui, j'ai une ambition politique, civique, pédagogique. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les questions d'histoire économique dont je parle dans ce livre sont des questions qui devraient faire l'objet d'une appropriation beaucoup plus large. Il y a aussi un message avec tous mes amis, chercheurs en sciences sociales, en particulier historiens, qui parfois ont abandonné un peu l'étude des questions économiques aux économistes. Et ça, je pense que c'est un gros problème, parce que beaucoup des problèmes de notre époque, qu'il s'agisse de l'organisation de l'Union européenne, des dettes publiques, de niveau des salaires, sont des questions qui demandent une très longue perspective historique que souvent n'ont pas mes collègues économistes. Et je pense qu'on a besoin que tous les chercheurs en sciences sociales, mais tous les citoyens aussi qui s'intéressent à ces questions, se les approprient. Et c'est ça l'objectif de ce livre.
En quoi il y a une urgence que les citoyens s'approprient ces questions aujourd'hui en 2019 ?
Je pense qu'une grande partie de notre désarroi politique contemporain vient d'une autonomisation excessive de la sphère économique et financière. Alors c'est vrai qu'il y a une complexification accrue de l'économie au fil du temps, mais pour finir, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas de la mécanique quantique. Ce sont des choses simples. Moi, j'essaye dans ce livre. Alors, il est long parce que je traite d'une histoire qui est longue, mais il est, je crois, très lisible. Hein. J'essaye vraiment de.
Alors, ça, tout le monde hoche la tête. Il faut aller regarder la vidéo. On est d'accord.
C'est
même plus lisible que le premier.
Moi, ce livre, je l'ai écrit. Le public en tête, c'est par exemple ma mère qui est institutrice en Indre-et-Loire, qui est devenue institutrice sur le tard à 40 ans parce qu'elle avait pas pu faire d'études. Elle avait quitté l'école à 15 ans. Elle est devenue institutrice à 40 ans et elle lit pas des livres universitaires avec des notes de bas de page en bas et ce livre-là, elle peut le lire pas simplement parce que c'est son fils, parce que simplement,
il y a pas
des personnes qui ont une conscience historique, politique, qui ont envie de se faire leur opinion sur ces questions de dette, ces questions de capital, ces questions de salaire, ces questions d'échanges commerciaux, toutes ces questions-là sont pas des questions qu'on peut abandonner à d'autres.
Plutôt donc, que la colère et le repli identitaire, c'est ça que vous dites au fond.
Oui, c'est-à-dire la colère ne suffit pas à donner des débouchés. Donc moi, le message général de l'histoire des sociétés humaines que je dresse dans ce livre, c'est que la lutte des classes, c'est bien, les crises sociales, c'est bien, mais la lutte des idées, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on a besoin de débouchés en termes d'idées, d'idéologie, d'institutions, de politique, et la colère ne suffit pas forcément à déboucher politiquement sur des solutions forcément plus émancipatrices que ce qu'on avait dénoncé au départ. Et donc, et avec cet anniversaire de la chute du mur, évidemment, tout l'échec du communisme au XXe siècle est une raison supplémentaire pour s'interroger sérieusement sur quel système de remplacement. Et donc, je pense qu'une vaste mise en perspective historique est ce qu'on a de moins bête à faire pour essayer d'avancer dans cette solution.
Alors on va ouvrir le livre ensemble, Christian Chavagneux.
Voilà, on va maintenant rentrer dans le contenu du livre et de vos analyses. C'est une très longue perspective historique, on va dans plein d'endroits dans le monde et à chaque fois je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort et qui consiste à s'apercevoir que beaucoup dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont connu des inégalités très fortes et pendant longtemps. Et vous dites ça, ça s'explique par une idéologie particulière. Il faut toujours justifier ces inégalités. Vous appelez ça l'idéologie propriétariste. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Alors ça, c'est ce qui vient un peu après les sociétés d'Ancien Régime, mais ce besoin de justification des inégalités, il existe encore avant ça. C'est-à-dire que je pense que toutes les sociétés humaines ont besoin effectivement de donner du sens qui a pu être donné à un moment par des idéologies religieuses, par des idéologies politiques. Donc par exemple, dans les sociétés d'Ancien Régime, il y a l'idée qu'il y a une classe religieuse qui apporte une certaine forme de sagesse, de stabilité, une classe, une noblesse guerrière qui apporte l'ordre, mais il y a un équilibre entre les deux et tout ça est censé bénéficier à la stabilité de la société dans son ensemble. Alors, il y a évidemment parfois beaucoup d'hypocrisie et une volonté de domination, mais c'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de société où les élites se contentent de dire bon, bah voilà, nous sommes les élites, vous travaillez pour nous et puis c'est tout. Parce que ça ne tiendrait pas, ça s'effondrerait tout de suite. Donc il y a toujours un projet de civilisation qui a toujours une part de plausibilité. C'est-à-dire l'Église, dans l'Ancien Régime, apporte des services sociaux, des services d'éducation, de santé, qui sont peut-être pas aussi considérables qu'ils auraient pu l'être par rapport au régime suivant, mais qui sont pas non plus complètement négligeables. L'ordre qu'apporte la noblesse aussi est important. Alors, les sociétés propriétaristes vont représenter un bouleversement par rapport à ça, puisque au moment de la Révolution française, on établit d'une part l'égalité juridique face au droit, donc quelles que soient vos origines, que vous n'avez pas besoin de venir de la noblesse ou du clergé, vous avez le même droit formel en principe, et en particulier le droit de propriété. Le droit de propriété est garanti par l'État centralisé et non plus par les élites nobles au niveau local. Et donc vous avez ce système qui se met en place, qui représente une forme d'émancipation. Hein, il faut bien voir que c'est quelque chose qui va finir avec une certaine sacralisation de la propriété. C'est-à-dire que la limitation, c'est que il y a un espoir d'émancipation, mais en même temps, comme on n'ouvre pas vraiment la propriété, en particulier, il n'y a pas de véritable redistribution agraire au moment de la Révolution française. Il y a des débats très très intéressants que je raconte dans mon livre sur, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des anciennes corvées. C'est-à-dire au moment de la Révolution française, vous avez beaucoup d'endroits sur le territoire où des paysans payent un jour, deux jours, trois jours de travail non rémunéré par semaine comme forme de corvée à leur seigneur. Alors il y a des débats, il y en a certains qui disent, bon mais quand même ça montre bien que tout ça, ça vient du servage, c'est quand même très violent comme appropriation, on va les supprimer et le paysan sera finalement propriétaire de sa terre et travaillera pour lui-même. Mais finalement d'autres disent, oui, mais finalement, ces corvées, c'est un peu comme un loyer. C'est comme si on paye 1/7 ou 2/7 de la production comme loyer. Si on remet ça en cause, est-ce qu'on va pas remettre en cause tout le système de propriété et de loyer qui n'ont pas des origines liées au servage? Et donc, finalement, la solution qui est proposée est une solution assez conservatrice qui consiste à transcrire, dans la plupart des cas, les anciennes rapports de domination dans un nouveau langage qui est le langage du droit de propriété, mais sans vraiment ouvrir la propriété. Et finalement, tout au long du 19e siècle, il y a cette peur d'ouvrir la question de la redistribution de la propriété. Et le résultat, c'est qu'on a une concentration de la propriété et donc du pouvoir économique et des opportunités de participer à la vie économique qui reste très limitée jusqu'à quasiment la Première Guerre mondiale.
Emmanuel Lechypre.
Justement, Thomas Piketty, pour refaire un petit peu le film des inégalités, on part de la Révolution française à grands traits, le 19e siècle. Est un siècle d'augmentation des inégalités. Ça culmine au tournant du 19e et du 20e, petite parenthèse, au moment où il y avait déjà beaucoup une économie très mondialisée, paradoxalement. Et puis le 20e siècle est globalement un siècle dans lequel ces inégalités vont se réduire jusqu'aux années 80, 1980, on va dire, et là où ça repart à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les ressorts profonds de ces cycles d'inégalités, j'ai envie de dire?
Alors, moi, je pense qu'il y a un mouvement de long terme vers la réduction des inégalités. C'est-à-dire, les inégalités aujourd'hui, malgré tout, sont plus faibles qu'il y a un siècle, qui elles-mêmes étaient quand même plus faibles que sous l'Ancien Régime, si on intègre non seulement la dimension monétaire des inégalités, mais aussi l'égalité face au droit, face au droit de mobilité. Donc, la Révolution française représente quand même, il y a une émancipation par l'égalité face au droit qu'il ne faut pas négliger. Après, c'est vrai que d'un point de vue monétaire, jusqu'en 1914, on a plutôt une concentration croissante de la propriété, notamment dans le cadre d'un système hyper capitaliste sur le plan, au plan national, mais surtout au plan international. C'est-à-dire qu'on a, à travers l'expansion d'abord esclavagiste, puis coloniale, des niveaux de rapports de domination au niveau international. Il faut se rendre compte que ce qu'ont accumulé les propriétaires britanniques, les propriétaires français dans le reste du monde jusqu'en 1914, sont des niveaux de possession dans le reste du monde en termes d'actifs financiers, parfois obtenus sous forme de véritables tribus militaires, parfois sous forme d'investissements, mais avec quand même des niveaux d'exploitation assez extrêmes, qu'on n'a jamais retrouvés dans l'histoire. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on regarde ce que possèdent la Chine ou l'Allemagne ou le Japon en réserve financière, en actifs financiers, le reste du monde, en pourcentage de leur produit intérieur brut ou de leur revenu national, c'est 2, 3, 4 fois plus faible que ce que le Royaume-Uni et la France avaient accumulé à la veille de 1914, ce qui va finir par conduire à des tensions extrêmes. C'est-à-dire que quand vous avez des rapports de propriété, donc ça va être une des clés qui va conduire.
Ça n'empêche qu'à cette époque-là aussi, d'accord, mais la pauvreté diminue aussi. Et la question, c'est toujours, est-ce que les inégalités, parce que vous donnez l'impression qu'il faut toujours les justifier. Donc quelque part, c'est toujours injuste. Mais est-ce que les gens, démocratiquement, est-ce que c'est leur sujet? Est-ce que leur sujet, c'est pas la pauvreté? C'est toujours ça qui m'inquiète. Qui m'interroge, c'est de me dire, est-ce que finalement le sujet, c'est pas qu'il y ait moins de pauvres, qu'il y ait moins d'inégalités.
Vous parlez des dominations coloniales et vous pensez que c'est une bonne façon pour réduire la pauvreté?
Non
mais là, je suis un tout petit peu
sujet quand même.
Non mais est-ce que la question vaut quand même, Thomas Piketty?
Je parle d'un système. La question, évidemment, la seule question, c'est l'inégalité utile. Donc là, je vous parlais d'une forme d'appropriation internationale. Oui, mais c'est de ça dont on parlait. Donc, essayons de prendre les choses dans l'ordre. On a des formes d'inégalité qui n'étaient pas utiles. Oui, mais qui n'étaient pas utiles. Donc, c'est ça le point important. C'est-à-dire qu'on avait, enfin, non seulement qui n'étaient pas utiles, mais qui étaient d'une brutalité extrême. Et la raison pour laquelle j'évoquais ça, c'est pas simplement pour l'histoire, c'est que pour finir, c'est cette contradiction interne au système d'accumulation capitaliste qui, en l'occurrence, au début du XXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, va conduire à l'effondrement de ce système propriétariste qui va un peu mourir de ses contradictions parce que, finalement, il génère, pour le coup, des inégalités tellement injustifiables qu'il va y avoir des mouvements d'indépendance face au colonialisme, mais il va y avoir aussi des mouvements socialistes, communistes, la révolution bolchevique qui va, finalement, contraindre les élites des pays capitalistes d'accepter des réformes qu'elles n'acceptaient pas. C'est-à-dire, il faut savoir que la France, qui aime bien se présenter comme liée très fortement à l'idée d'égalité depuis toujours, c'est le dernier pays à créer l'impôt sur le revenu en 1914, la loi du 15 juillet 1914, et c'est pas pour investir dans les écoles, ce qui est utile pour réduire la pauvreté, c'est pour faire la guerre avec l'Allemagne. Et au nom du fait que la Révolution française aurait déjà tellement réduit les inégalités, parce que c'est une longue histoire en France où on se raconte, nous, on est déjà tellement égalitaires. Mais en l'occurrence, c'est ça qui permettait de justifier qu'on ne crée pas l'impôt sur le revenu en France, alors qu'il était déjà créé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne,
mais
au Japon.
Mais Thomas Piketty, donc, je voudrais vous poser la question.
On a ce processus de réduction des inégalités qui, intellectuellement, était déjà en préparation au 19e siècle et même au 18e siècle, avec les Lumières, où il y a un objectif d'égalité qui s'installe dans la réalité en partie au 19e siècle avec l'égalité face au droit. Mais c'est effectivement au 20e siècle, en gros des années 1900-1910, avec les premières lois sociales, les premiers systèmes de retraite, jusqu'aux années 70-80, on a là, à travers l'investissement dans l'éducation, parce que c'est quand même ça le facteur numéro un de réduction des inégalités et aussi de prospérité économique, parce que la leçon peut-être principale de l'histoire que je décris dans le livre, c'est que finalement ce mouvement de très forte réduction des inégalités qui a eu lieu au XXe siècle, ça a été un immense succès, d'abord en termes de croissance économique, de développement, c'est-à-dire que l'origine de la prospérité au XXe siècle, c'est le fait que la réduction des inégalités s'est faite avec l'investissement dans l'éducation, s'est faite avec plus de mobilité sociale, un début de circulation de la propriété et du pouvoir économique, l'implication des salariés dans les dirigeants. Et c'est tout ça qui a permis à la fois la réduction des inégalités et la prospérité.
Il y a eu, donc, dans ce que vous dites, il y a eu en effet à la fois les tensions, les indépendances, les guerres qui ont permis de redistribuer la propriété et les richesses. Et puis, vous parlez des politiques publiques. Au XXe, on a cette grande expérience quand même, politique, économique et sociale. C'est le communisme. Ce matin, avant d'en discuter, je vous propose, on est 30 ans pile poil après la chute du mur, c'est le jour J, on va à Berlin. Bonjour Ludovic Piétenu.
Et bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne, Ludovic. Alors ces dernières semaines, vous avez rencontré beaucoup d'Allemands qui étaient citoyens de l'ancienne RDA. 30 ans plus tard, que vous disent-ils ?
Je vais retenir l'un d'entre eux, Alexandra, qui m'a dit « On a plus de liberté, mais on a perdu la sécurité, la garantie d'un emploi, cet état qui s'occupait de chacun, du berceau au cercueil. Tout était pris en charge, le bébé, dès le premier mois, avait une place garantie dans une crèche, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Cela permettait aux femmes de travailler, plus de 90% d'entre elles. Un ancien chef d'entreprise, un homme très important du temps de la RDA, il gérait un combinat, un ensemble de 13 entreprises, 320 000 employés. Il a aujourd'hui 81 ans et il me disait, on ne parlait pas de féminisme tout le temps comme aujourd'hui, la parité, l'égalité, on n'en parlait pas, on la faisait, l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des salaires aussi, un instituteur, un serrurier, un ouvrier gagnait la même chose, environ 1000 marques de l'Est, et notre grand patron, bah, lui, gagnait 3 fois plus, un écart donc uniquement de 1 à 3. Pendant notre rencontre, Alexandra, cet homme, Eckhart Netzmann, attrape un récent numéro de l'hebdomadaire Die Zeit, 30 visages en une, ceux du DAX 30, les plus grandes entreprises d'Allemagne, que des hommes, fait-il d'abord remarquer, mais plus important à ses yeux, ce ne sont que des gens de l'Ouest.
Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que 30 ans plus tard, les Allemands de l'Est ne sont pas sur cette photo, Ludovic?
Bah, beaucoup vont vous répondre à cause de la Treuhand, cette administration avec à sa tête que des Allemands de l'Ouest, chargée de transformer l'économie communiste de l'ex-RDA en une économie libérale, capitaliste, en 4 ans, de 90 à 94, c'est un processus absolument unique dans l'histoire. Ils vont privatiser au pas de charge 8000 entreprises, qui équivalent à 4 millions d'emplois. Tout ou presque a été liquidé, comme disent aujourd'hui les Est-Allemands qui ont découvert le chômage, et ici en l'occurrence un chômage de masse, entraînant une fuite à l'Ouest de 2 millions de personnes, outre ceux qui voulaient la liberté et les bananes. Voilà, des jeunes, des gens très qualifiés qui se sont dit « mais il n'y a plus rien à faire ici, on s'en va ». Et des villages entiers se sont vidés. Et c'est encore ça qui persiste quand on se balade dans le Brandebourg, en Saxe, dans le Mecklembourg-Poméranie. Ce sont des gens qui sont traumatisé de cette époque, 30 ans plus tard.
Ludovic Piétenu avec nous depuis Berlin. Et c'est toujours On n'arrête pas l'écho, une émission spéciale avec notre invité Thomas Piketty. Une question pour vous de Christian Chavagneux.
On est aujourd'hui en Europe de l'Ouest, dans des pays qui ont réussi à lutter contre les inégalités en même temps. En même temps, il y a un graphe assez important dans votre bouquin qui montre que les 50% les plus pauvres ont jamais détenu plus de 10% des richesses. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à partir des années 80, les inégalités remontent. Alors que on est dans des périodes social-démocrates, avec de l'État-providence, avec la gauche au pouvoir, et vous dites, même les sociodémocrates, même la gauche, ils ont échoué en fait à réduire vraiment considérablement ces écarts de richesse.
Alors, c'est vrai que la propriété s'est diffusée, disons, des 1% les plus riches vers les 30 ou 40% suivants, mais les 50% les plus pauvres n'ont pratiquement jamais rien possédé. C'est vrai que leur part dans la propriété totale, aujourd'hui, est d'à peine plus de 6% en France. C'était 2% au 19e siècle, donc c'est un progrès, mais quand vous êtes 50% de la population, ça fait quand même pas beaucoup. Par contre, la part dans le revenu et a augmenté beaucoup plus. Elle est plutôt plus proche de 20%, ce qui pour 50% de la population reste limité et limite la lutte contre la pauvreté, mais est quand même beaucoup plus élevé parce que les salaires sont beaucoup moins inégalement répartis que la propriété. Mais c'est vrai que cette diffusion limitée de la propriété, c'est une des limitations, disons, de ce qui a été fait au XXe siècle, et c'est ce qu'il faut essayer de regarder pour la suite. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Et je pense qu'on peut faire mieux que ça. La chute du communisme a été la chute d'un système qui, au lieu de reposer sur la diffusion de la propriété et des pouvoirs, qui est moi ce que j'essaye de défendre, reposait sur un système de d'hypercentralisation très autoritaire, de la propriété à un niveau extrêmement centralisé, qui a été un désastre non seulement du point de vue des libertés politiques, mais qui a été un désastre d'un point de vue économique. C'est-à-dire moi j'avais 18 ans en 89, je me souviens de ces événements, je suis très très ému là d'entendre ces analyses, ces témoignages, parce que je me souviens à la radio, j'étais jeune étudiant, j'écoutais ça à l'automne 89, je me souviens avoir voyagé après en Roumanie en février 90, un voyage d'étudiant pour aller soutenir la jeunesse roumaine. Donc c'est des souvenirs vraiment très forts.
Mais vous dites que ça vous a radicalisé.
Radicalisé dans quel sens?
Ensuite, que vous étiez finalement plus libéral à 18 ans et qu'après la chute du mur, après ce moment d'euphorie où vous partez en effet faire des voyages de soutien, finalement vous vous radicalisez. Votre pensée se radicalise.
Vous achetiez le social-libéralisme à un moment de la chute du mur de Berlin?
Alors, attendez, radicaliser, bon, moi j'avais 18, je suis pas sûr d'avoir compris.
Non, mais vous étiez bon, plutôt social-libéral.
Vous étiez plutôt, oui, social-démocrate, social-libéral, et vous allez finir par être plus quoi d'ailleurs, définissez-vous
vous-même. Attends, j'essaye de comprendre ce que vous me demandez, je suis pas sûr, mais je vais essayer de vous dire.
Vous étiez macronien comment... à la fin des années 80.
Alors, attendez, moi d'abord, aux années 80, j'étais un bébé, vous savez, j'ai 18 ans en 89. Donc, ce qui est certain, c'est que moi, ces voyages en Europe de l'Est et dans les pays communistes m'ont beaucoup marqué, et c'est vrai que dans les années 90, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je me sentais plus libéral que ce que je me sens aujourd'hui, dans le sens où, quand on voyage en Europe de l'Est, parce que l'Allemagne de l'Est, bon, on peut parler aujourd'hui des services publics qui parfois existaient, l'égalité homme-femme, mais globalement, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que moi, je me souviens m'être promené avoir voyagé en Europe de l'Est en septembre 94, au moment des élections qui ont conduit à la réélection d'Helmut Kohl de justesse. Bon, vous passez en Europe de l'Est, les routes étaient dans un très mauvais état, donc même les services publics de base, le système ne fonctionnait pas. Donc, j'ai été en Russie en 92-93. Donc, tout ça m'a effectivement fait que j'étais plutôt plus libéral, mais comme beaucoup de gens, en fait, ce tournant a conduit à un moment libéral, un moment de foi dans l'autorégulation des marchés, qu'on peut comprendre compte tenu de l'ampleur de l'échec du communisme, mais qui en même temps a été beaucoup trop loin. Et donc, moi, mon livre, là, c'est 30 ans après tout ça, je pense que c'est le moment, effectivement, de réouvrir la question de est-ce qu'on n'a pas été beaucoup trop loin ? Et oui, on a été beaucoup trop loin, et de reprendre la question de quelle forme de système économique de substitution on veut développer par rapport à un hypercapitalisme qui a été beaucoup trop loin.
L'hypercapitalisme, c'est-à-dire la chute du bloc soviétique, la privatisation, vous pensez à la Russie quand vous dites ça?
Alors la Russie est un exemple extrême, puisque après avoir été le pays qui avait interdit complètement la propriété privée, c'est devenu le pays des oligarques et des paradis fiscaux. La Russie de Poutine aujourd'hui, c'est un pays dans lequel il n'y a même plus aucun impôt progressif sur le revenu. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, c'est 13%, que votre revenu soit de 100 roubles ou d'un milliard de roubles. Donc même Trump, il n'ose pas formuler ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même Trump, il est obligé de dire, bon, ça va être 5% sur les plus bas revenus, 30% sur les plus hauts. Les candidats démocrates, Warren, Sanders, vont dire non, il faut revenir à 70-80% sur les plus hauts, mais tout le monde défend une forme d'impôt progressif, c'est-à-dire avec un taux qui augmente quand même avec le niveau de revenu. En Russie, non. En Russie, comme d'ailleurs en Chine, qui se dit communiste, il n'y a plus aucune forme d'impôt sur les successions. C'est-à-dire que vous privatisez tout, souvent, au bénéfice des plus proches du pouvoir, ce qui, pour la réduction de la pauvreté, le chip n'est pas indispensable. Et ensuite, et oui, toutes les inégalités ne sont pas indispensables pour réduire la pauvreté. Et ensuite, vous pouvez transmettre tout ça à vos descendants, avec aucun impôt sur les successions. Et aujourd'hui, si vous faites fortune en Asie, vous avez intérêt à aller mourir en République populaire de Chine pour le transmettre sans aucun impôt sur les successions. Alors si vous allez à Taïwan capitaliste, ou en Corée du Sud, au Japon, vous avez un impôt sur les successions qui, même au Japon, est monté à 55% sur les plus hautes fortunes l'an dernier. Pourtant, c'est pas un pays, le Japon, qui a une culture particulièrement gauchiste sur le plan politique. Donc, c'est là qu'on voit les effets de l'effondrement du communisme ont conduit à un espèce de retour de balancier idéologique qui a été beaucoup trop loin. Et qui utilise des groupes
proches
du pouvoir. Chez nous,
comme à Piketty, en Europe de l'Ouest, on a eu des gouvernements de gauche aux États-Unis, chez nous, et pourtant, les inégalités ont continué à progresser. Vous n'avez pas répondu à ma question sur l'échec de la gauche.
Non, je suis passé sur ma radicalisation, donc j'ai essayé de répondre parce que ça m'avait interpellé. Pour revenir
l'échec
sur
l'échec de la social-démocratie.
L'échec de la social-démocratie, j'essaye de l'analyser dans mon livre. J'essaye de montrer dans le livre, il y a une exploitation nouvelle de toutes les enquêtes post-électorales dans les démocraties occidentales depuis les années 40-50, et je montre que progressivement, les partis sociaux-démocrates au sens large sont devenus, les classes populaires petit à petit sont retirées du vote pour ces partis et sont devenus plutôt les partis des plus diplômés. Et j'essaye d'analyser ça à l'aune de, disons, plusieurs échecs. Il y a toute la question de la justice éducative, de l'égalité éducative. C'est-à-dire, à mesure où on est rentré dans l'ère de l'enseignement supérieur, on n'a pas su développer, les partis sociaux-démocrates n'ont pas su développer un modèle de justice éducative dans l'investissement éducatif, parfois avec beaucoup d'hypocrisie en France, par exemple, où on va mettre trois fois plus d'argent dans des filières de grandes écoles que dans les filières ouvertes aux tout-venants. On augmente énormément le nombre de bacheliers, mais on n'augmente pas du tout le nombre de places en IUT-BTS. Donc on a créé beaucoup de frustration, en particulier chez beaucoup d'enfants de classe populaire qui ont eu l'impression que finalement, on se souciait beaucoup plus de personnes plus favorisées qu'eux. Donc ça, c'est vraiment échec sur l'éducation, je pense, qui est vraiment la question centrale. Il y a un échec face à la globalisation en général. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les socialistes français, notamment, ont signé, dans le cadre de l'Union européenne, des traités de libre circulation des capitaux sans aucune régulation publique et en particulier sans aucune fiscalité commune, sans aucun échange d'informations sur qui possède quoi où. Et ensuite, on arrive 30 ans plus tard à l'OCDE et on dit, ah bon, maintenant on va faire des accords pour avoir des échanges automatiques d'informations, sauf que ça reste complètement sur une base volontaire. Alors qu'il faudrait que ce soit au cœur des traités européens qui organisent la libre circulation des capitaux, avec des sanctions sur les pays qui ne transmettent pas les informations. Parce qu'après, vous vous trouvez dans une situation où vous dites « Ah bah c'est ballot, on ne sait pas qui possède quoi où, donc on va uniquement pouvoir faire payer les classes moyennes et les classes populaires, et les plus riches, bah je suis désolé, on ne sait pas où ils sont. » Alors qu'on a créé ce système permettant d'appuyer sur un bouton, vous avez fait fortune grâce aux infrastructures du pays, grâce au système éducatif du pays, et après, hop, vous transmettez tout ailleurs.
Donc, et plus éducation, personne peut vous libéralisation suivre. Financière, et
y a... Et disons, plus généralement, il y a la réflexion sur la propriété et le bon niveau pour réguler la propriété, donc pour diffuser la propriété. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même, malgré toutes les réussites de la social-démocratie au XXe siècle, qui sont quand même bien plus considérables si on compare par rapport au régime communiste, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu des limitations, et en particulier, il y a eu une réflexion insuffisante sur la diffusion de la propriété. C'est-à-dire, en gros, jusqu'aux années 80, les travaillistes britanniques, comme les socialistes français, misaient tout sur les nationalisations. Et puis, du jour où s'est effondré le communisme, on voulait plus de nationalisation, mais il n'y avait pas vraiment de programme alternatif. Alors qu'il aurait fallu, je pense, approfondir ce qui a été fait dans les pays d'Europe germanique et nordique, notamment en termes de partage du pouvoir entre les salariés et les actionnaires. Il aurait fallu aller plus loin dans la circulation de la propriété, dans la diffusion du pouvoir dans la société. Parce que dans le fond, c'est ça l'enjeu central, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus éduquées et on a besoin d'une circulation du pouvoir pour que tout le monde puisse participer à la vie économique. Et l'espèce de conception qui s'est développée depuis les années 80-90, selon laquelle plus le pouvoir économique est concentré, plus on a un milliardaire qu'à 50 ou 100 milliards, plus ça va être efficace pour l'économie, qui est une conception un peu monarchique de l'économie, est complètement en décalage par rapport à ce que seraient les besoins. Et on voit des gens qui continuent de sortir ça très convaincus d'un point de vue rationnel, en disant « oui, mais quand même, plus il y a de zéro, plus c'est efficace ». Mais pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on observe dans l'histoire. Donc il faut reprendre ce regard sur ce qui a marché dans l'histoire, et je pense qu'on aboutira à des conclusions assez différentes que celles qu'on entend parfois.
Et au croisement de l'économie et de la politique, Thomas Piketty, vous dites que cela explique que les classes populaires, l'électorat des classes populaires est décroché de la gauche.
Parce que je crois que ce serait trop facile de dire, voilà, c'est un malentendu, on n'a pas suffisamment bien expliqué. Moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est le divorce des classes populaires et d'une partie des classes moyennes avec la question européenne. C'est-à-dire, ce que je montre dans le livre, c'est que si on reprend les enquêtes qui ont été faites après les différents votes, il n'y a, si on regarde à la fois les référendums français de 92, 2005, le référendum britannique de 2016, dans les trois cas, sur un quart de siècle, dans deux pays différents, on observe que c'est uniquement, en gros, les 30% des niveaux de revenus, de diplômes, de patrimoine les plus élevés qui ont voté pour l'Union européenne, et les 60-70% qui ont voté contre. Et donc, quand vous avez ça de façon systématique, vous pouvez pas juste dire « Ah bah c'est un malentendu, on n'a pas assez bien expliqué ».
Aux États-Unis, les démocrates, ils ont aussi abandonné les classes populaires.
Alors, c'est une autre situation. C'est vrai que là, je me centrais sur la question de l'Europe, où là, il y a une question de comment on a construit l'Europe, c'est-à-dire que la libre circulation des capitaux, des biens, des services, sans mécanisme, sans objectif social explicite sur les salaires, sur l'éducation, ça crée beaucoup de frustration à l'intérieur des pays, entre l'Est et l'Ouest du continent. Parce que on oublie trop souvent, on crée à vouloir tout organiser par les relations de marché, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, on crée d'énormes malentendus. C'est-à-dire que vu d'Europe de l'Ouest, par exemple, on va dire, mais quand même, pourquoi ils se plaignent, là, tous ces gens à l'Est, avec tous ces transferts publics incroyables qu'on leur envoie,
on est
tellement généreux, comment ils font pour être si mécontents? Sauf qu'en fait, eux, ils voient un autre flux, qui est le flux sortant de profits privés liés aux investissements qui ont eu lieu en Europe de l'Est. Et en fait, les flux sortants de profits privés vont représenter 2-3 fois plus, c'est-à-dire ça va être 6, 7, 8% du PIB de République tchèque, de Pologne, de Hongrie, qui sortent chaque année pour aller vers les propriétaires allemands, parfois français, qui vont être 2-3 fois plus importants que les transferts publics. Alors évidemment, ces investissements, normalement, c'est un jeu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ces investissements, ils ont permis d'augmenter la productivité dans ces pays, et ça, les gens s'en rendent compte. Sauf qu'ils espéraient des augmentations de salaires plus importantes, et en fait, les salaires n'ont souvent pas du tout eu les progressions qu'on espérait qu'ils aient.
Mais ça a quand même fait sortir les Polonais, les Hongrois de la pauvreté, ça a réduit les inégalités par rapport à l'Ouest.
Par rapport à ce qu'on leur a fait miroiter, et par rapport aux salaires qu'ils voient de l'autre côté de la frontière, ils ont l'impression d'être traités comme des citoyens de seconde zone, et vu les masses en jeu, c'est-à-dire vu l'ampleur de ces profits sortants, je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux. C'est-à-dire, vous voyez, l'attitude des Européens de l'Ouest qui est de dire, vous savez, le niveau des profits et des salaires, ça c'est le marché, c'est la concurrence, c'est le libre jeu de la concurrence, ça tombe du ciel. Et ensuite, ce qui compte, c'est uniquement les transferts publics par rapport à cet équilibre, qui, ça, sont un acte de générosité de la part des vainqueurs du marché. Sauf que le marché, il tombe pas du ciel. C'est-à-dire, le niveau des salaires et des profits, il dépend des règles sociales, de l'harmonisation du droit syndical, par exemple, du droit de négocier des salaires, et dépend de l'existence d'harmonisation ou pas d'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Et donc, si on prend cette façon de sacraliser le marché, et de dire, voilà, il y a l'équilibre de marché qui est forcément juste et bon, et tous les transferts qu'on fait ensuite sont un acte de générosité, et ça conduit à des incompréhensions, et il y a la même chose entre le nord et le sud de l'Europe sur la question du taux d'intérêt, où on va sacraliser le fait de dire, voilà, les Grecs se prennent 10% de taux d'intérêt sur la figure, bah, c'est mérité, si on leur prête à 4% alors qu'on a emprunté à 1%, on est généreux, mais vu de la Grèce, on voit les choses différemment. Donc, voilà, on peut pas organiser des grandes communautés humaines au niveau d'un pays, a fortiori au niveau de l'Union européenne, et c'est la même question aux États-Unis, uniquement avec un principe de concurrence qui est utile jusqu'à un certain point.
Il faut de la politique, mais c'est ce que vous êtes en train de dire.
Il faut de la politique, il faut de l'investissement public, sinon voir des régions périphériques qui restent périphériques très longtemps.
Alors Thomas Piketty, dans ce livre Capital et idéologie, on l'a dit, c'est un livre d'histoire. Vous racontez ce qui, de votre point de vue, a marché et n'a pas marché. Très simplement, quel pays, quel exemple, qu'est-ce qui a marché? La Suède, l'Inde, il y a des exemples. Qu'est-ce que vous retenez?
La Suède, c'est un cas très intéressant, d'autant plus qu'il venait de très loin en termes d'inégalité. C'est-à-dire, je montre, c'est parfois on s'imagine qu'il y a des pays qui ont des cultures égalitaires depuis toujours, et d'autres qui ont des cultures inégalitaires depuis toujours. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est de voir les rapidités du changement. Donc la Suède, de 1865 à 1911, c'est un pays extrêmement inégalitaire, avec même un système de droit de vote qui est proportionnel à la fortune. C'est-à-dire que plus vous avez... Bon, c'est seulement les 20% les plus riches qui ont le droit de voter, mais à l'intérieur des 20%, vous pouvez avoir jusqu'à 100 votes si vous êtes suffisamment riche, et même aux élections municipales, il n'y a pas de limite, et vous avez plusieurs dizaines de communes en Suède dans lesquelles une personne a plus de 50% des droits de vote. Et ce qui est quelque chose de complètement fou. Vous voyez, c'est pas du tout la vision de la Suède qu'on a actuellement. Et puis ensuite, vous allez avoir une mobilisation des syndicats et une mobilisation du Parti social-démocrate qui, dans les années 1900 et 1930, non seulement vont imposer le suffrage universel, mais vont finalement mettre la capacité étatique du gouvernement suédois, qui enregistre les revenus, les fortunes, non plus pour distribuer les droits de vote en proportion des fortunes, mais pour faire payer en proportion des fortunes et pour mettre en place l'assurance santé pour tous, l'école, et finalement ça va devenir un pays qui va être extrêmement prospère, extrêmement égalitaire, jusqu'à...
C'est la société la plus égalitaire aujourd'hui ?
Alors ça l'a été, mais jusqu'à la crise bancaire suédoise de 1990-1992, qui va traumatiser le pays. Alors c'est très intéressant, parce qu'il y a cette libéralisation des capitaux dans les années 80 sans contrôle. Résultat, il y a des banques suédoises qui se mettent à faire des bêtises, comme toujours quand vous avez des libéralisations de capitaux sans contrôle, et il va falloir les renflouer, et en fait les conservateurs en profitent pour dire, ah regardez les sociodémocrates, ouais, ils ont pas bien géré le pays, on aurait peut-être plutôt en conclure qu'il fallait pas libéraliser les capitaux comme ça, mais enfin politiquement, ça va être exploité pour remettre en cause des éléments du modèle social-démocrate suédois, dont la grande limite quand même, parce que c'est rien de parfait dans le modèle social-démocrate suédois, c'est de pas avoir su nouer des coalitions internationales, et notamment au niveau européen, pour avoir des éléments de fiscalité commune, parce que finalement, étant un tout petit pays, ce pays s'est retrouvé après cette crise bancaire dans les années 90-2000, dans une situation un peu à avoir très peur des marchés financiers, et donc finalement à supprimer son impôt sur la fortune, à supprimer l'impôt sur les successions, ce qui est quand même assez étonnant, de peur que le fondateur d'IKEA parte en Norvège, etc. Bon, sauf que pour ça, il aurait fallu se mettre ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez une grande communauté économique au niveau de l'Union européenne, vous savez, aux États-Unis, qui n'est pas toujours pourtant un modèle d'égalité, même si ça l'a été parfois, ça fait un siècle qu'on sait que l'impôt sur les successions ou l'impôt sur le revenu, il faut que ce soit au niveau fédéral. Et au niveau de tous les États-Unis, parce que si chacun fait une compétition l'un avec l'autre, ça peut pas marcher. Et donc ça, le fait que les sociaux-démocrates suédois n'aient pas compris ça, en tout cas ne se soient pas engagés dans ce processus avec les socialistes français, les sociaux-démocrates allemands, bon, c'est un peu de la faute de tout le monde, mais là, il y a une limitation sur la réflexion sur la globalisation à laquelle je faisais référence tout à l'heure.
Et donc, où vous mène cette réflexion? On arrive au volet politique de votre ouvrage, Capital et idéologie, vos propositions pour réduire les inégalités, avec une question de Sandrine Foulon.
Oui, alors, vous proposez beaucoup de choses dans le livre, mais vous proposez justement de donner beaucoup plus de pouvoir aux salariés. Vous dites qu'il faut donner 50% de droits de vote aux salariés dans les conseils d'administration, il faut plafonner les droits de vote des actionnaires les plus importants, il faut développer l'actionnariat salarial, mais est-on sûr que des actionnaires salariés qui défendent aussi leurs intérêts vont prendre les meilleures décisions à tous les points de vue, économiques, sociales, même environnementales ?
Alors, on a besoin d'un certain équilibre des pouvoirs, mais moi, j'essaie d'abord de me baser sur ce qui a été fait. C'est-à-dire que dans les pays où on a donné 50% des droits de vote dans les conseils d'administration, donc l'Allemagne depuis les années 50, dans les plus grandes entreprises, il y a 50% des droits de vote pour les représentants des salariés. En Suède, c'est seulement 35%, mais ça s'applique aux plus petites entreprises, donc d'une certaine façon, c'est plus significatif. Il faut bien voir ce que ça implique. Ça veut dire que si, en plus de ces 50% des droits de vote pour les salariés, vous détenez 10% du capital comme salarié, alors vous pouvez faire basculer la majorité. Ou bien si une collectivité locale, par exemple l'État de Basse-Saxe à 20% de Volkswagen, ça s'ajoute aux 50% des droits de vote des salariés et vous pouvez faire basculer la majorité. Ça veut dire que sans avoir la majorité du capital, vous pouvez contrôler. Ce qui, du point de vue des actionnaires anglo-saxons ou français d'ailleurs, est complètement sacrilège. Mais à la fin des fins, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire ça a permis en Allemagne, en Suède, d'impliquer les salariés dans des stratégies d'entreprise, dans des stratégies à long terme. Ça permet pas de résoudre tous les problèmes, mais ça permet d'avoir une délibération des différents points de vue et d'impliquer davantage les différents acteurs à long terme. Et c'est quelque chose... Vous savez, les actionnaires allemands ou les actionnaires suédois, ils voulaient pas en entendre parler non plus. Ça leur a été imposé par des luttes politiques, syndicales, mais à la fin, c'est devenu un consensus parce que finalement ça a bien marché.
Alors enfin, il y a toujours des conseils d'administration un peu comment dire, il y a des réunions des actionnaires avant de réunir le véritable conseil d'administration avec les actionnaires salariés.
C'est pour ça qu'il faut aller plus loin et aujourd'hui il y a des propositions qui sont faites. Alors moi j'en fais dans le livre pour plafonner les droits de vote des plus gros actionnaires individuels, mais il y a des propositions très intéressantes qui sont faites parmi les travaillistes britanniques actuellement ou parmi les démocrates aux États-Unis pour avoir des fonds collectifs permettant de gérer une partie du capital de ces sociétés pour avoir des plafonnements des droits de vote. Vous savez, il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels on n'applique pas du tout le principe une action, une voix. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, ceux qui ont voulu faire des sociétés par action pour des universités comme la Trump University, c'était une catastrophe. Donc, dans la culture, dans les médias, il y a l'audiovisuel public, c'est très important, la radio publique, mais il y a aussi tous les médias qui s'organisent sous forme de sociétés coopératives, alternative économique, sous forme de fondation, le Guardian. Donc, je veux dire, les différentes formes de propriété, c'est un peu ça le message général du livre, sont toujours à réinventer. C'est-à-dire l'idée que, voilà, une action, une voix, c'est la seule façon de répartir les pouvoirs, c'est une idée complètement datée et qui correspond pas du tout à la réalité de la diversité des formes d'organisation.
Et alors juste sur l'épargne salariale, c'est pas un peu risqué? On a vu ce qui s'est passé avec Enron ou d'autres sociétés quand
oui,
vous mettez toutes vos économies.
Moi, je suis pas du tout un grand fan de l'épargne salariale. C'est-à-dire, je pense que quand je parle, par exemple, dans le livre d'un héritage pour tous à 120 000 euros, pourquoi c'est important? C'est pas forcément pour les mettre dans son entreprise.
Alors attendez, il faut expliquer quand même parce que les gens n'ont pas encore tous lu les 1200 pages. Donc ce que propose Thomas Piketty, en effet, dans ce livre, c'est en gros en France, à 25 ans, tous les jeunes toucheraient en effet un héritage que leur donnerait l'État de 120 000 euros. On va venir après à comment ça serait financé.
Alors oui, ça en utiliserait l'impôt sur les successions et l'impôt sur la propriété de ceux qui possèdent beaucoup plus de propriété pour financer tout ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une situation où vous avez une minorité de personnes qui vont hériter parfois de plusieurs millions, bon, parfois plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, ça c'est quand même très rare, mais ça arrive. Mais plusieurs millions, ça, il y en a un certain nombre. Qui savent pas forcément très bien quoi en faire, qui vont gagner et qui vont recevoir comme ça comme héritage plus que ce que des personnes reçoivent dans leur vie entière sous forme de revenus du travail. Et puis vous avez beaucoup de personnes, surtout parce que moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est les personnes en bas qui ne reçoivent rien du tout. Et ça veut dire que même si vous avez un bon diplôme, un bon salaire, vous allez vous retrouver d'avoir un bon diplôme, ça permet pas toujours d'accéder à un bon salaire. Quand finalement vous y arrivez, vous allez vous retrouver à devoir repayer sous forme de loyer toute votre vie une partie incroyable de votre salaire, simplement pour pouvoir vous loger, et vous allez payer parfois ce loyer à des enfants de propriétaires qui, eux, vont toucher les loyers. Donc, il y a quand même un problème. Donc, ça peut servir à acheter son logement, déjà, 120 000 euros. Ça peut servir à créer une entreprise pour des personnes qui ont des projets d'entreprise, mais j'en fais pas je dis pas que tout le monde doit faire ça. Après, il y a une diversité. Moi, c'est pour ça que je défends ce que j'appelle dans le livre une forme de socialisme participatif. C'est-à-dire, je défends une forme très décentralisée de socialisme dans lequel l'accès plus large au pouvoir dans les entreprises, l'accès plus large à la petite propriété permet d'avoir une diversité aussi de projets individuels qui vont pouvoir s'exprimer et finalement une égalité réelle plus forte.
Alors vous voulez donc encore, on va dire encore, taxer les plus riches, Christian Chavagneux?
Oui, alors il y a vraiment la volonté de réduire les inégalités de patrimoine, de propriété, vous l'avez dit, impôt sur les successions, impôt sur la propriété, sur les patrimoines, en gros au-dessus de 2 milliards de propriété, vous enlevez pratiquement tout. 2 milliards, c'est le niveau de richesse juste au-dessus duquel il faut tout enlever?
Non, à 2 milliards, l'impôt proposé est de 90%.
Il
vous reste quand même 200 millions d'euros. Donc avec 200 millions d'euros, vous pouvez encore avoir quelques projets quand même, Christian Chavagneux. Enfin, je veux dire, on me dit, c'est terrible, les personnes vont plus pouvoir rien faire. Enfin, il faut pas exagérer.
Non, c'est une grosse transformation
par rapport à 200 millions d'euros. C'est-à-dire que là, l'impôt serait plutôt de 60%. En gros, ça convergerait plutôt vers 10 ou 20 millions d'euros. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est une société où tout le monde puisse posséder, disons, quelques centaines de milliers d'euros, où des personnes peuvent, s'ils créent des entreprises qui ont du succès, posséder quelques millions, parfois quelques dizaines de millions d'euros, mais avec une circulation de cette propriété, c'est-à-dire on doit rebattre les cartes très régulièrement. Et le fait d'avoir des personnes qui ont des centaines de millions, des milliards d'euros, effectivement, au vu de l'analyse historique que je mène, je pense que ce n'est pas utile du point de vue de l'intérêt général. Donc là, il faut revenir sur l'histoire quand même, parce que moi, à chaque fois, je parle de l'expérience germanique nordique de partage du pouvoir, c'est une expérience historique réelle. La progressivité fiscale, c'est aussi une expérience historique réelle. Il y a eu une promesse réaganienne dans les années 80 qui a été de dire « on a été trop loin ». Dans la réduction des inégalités, c'était le discours de Reagan, de dire voilà, on avait taxé depuis Roosevelt, depuis même dès les années 20, à 70, 80, 90% les plus hauts revenus, les plus hautes successions des États-Unis jusqu'aux années 80, Reagan arrive avec un discours qui aurait pu être vrai, hein, qui avait des allures de plausibilité, comme tous les discours idéologiques, qui est de dire, on a été trop loin dans la réduction des inégalités, je vais réduire les impôts sur les entrepreneurs, les milliardaires, vous allez avoir peut-être plus d'inégalités, mais vous allez avoir tellement plus de croissance, d'innovation, de brevets, que finalement...
Le ruissellement.
Les revenus et les salaires vont se mettre à croître comme vous l'avez jamais vu. Sauf que 30 ans plus tard, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le niveau de la croissance américaine a été divisé par deux. C'est-à-dire que la croissance américaine, elle était entre 1950 et 1990 de 2,2%, le revenu national par habitant. On est tombé à 1,1% entre 1990 et 2020. Donc sur des périodes très longues, hein, on observe que la division de la croissance a été considérable. Donc moi j'invite quand même tous ceux qui disent ça a permis de stimuler l'innovation, la croissance, etc.
C'est un message à qui ça? C'est un message à Emmanuel Macron?
C'est un message à tous ceux qui refusent de comparer ces périodes historiques et qui sont dans des discours qui n'ont pas de réalité. C'est-à-dire que, ou alors, et le discours qu'il faudrait tenir, c'est de dire en fait la croissance s'apprêtait à être divisée par 4. Et grâce à cette politique, on a limité les dégâts, elle a été que divisée par deux. Pourquoi pas? Mais j'invite à ceux qui veulent tenir cette argumentation à la formuler précisément et à dire exactement quelles sont leurs hypothèses. Parce qu'en attendant, ce qu'ont conclu les Américains de tout ça, soit ils ont conclu, comme Trump, qu'il fallait aller sur un discours nationaliste. C'est-à-dire de dire, en fait, tout ça, si on n'a pas eu la croissance, c'est de la faute des Mexicains, des Chinois. Bon, ça, moi, à mon avis, c'est pas une très bonne solution. Hein. Mais il y a une autre solution, qui est celle des démocrates aux États-Unis actuellement, et d'une bonne partie des démocrates, en tout cas, qui est de dire, il faut revenir non seulement à plus de redistribution, mais aussi à plus d'investissement dans l'éducation. Parce que j'en reviens, c'est-à-dire que les impôts, Emmanuel, le chiffre, c'est pas pour être méchant avec les riches, c'est pour pouvoir investir dans l'éducation, et investir en particulier dans les enfants des classes populaires et classes moyennes, qui n'ont pas de patrimoine, qui voudraient pouvoir accéder à l'éducation, qui pourraient accéder à la propriété. Et dans les propositions qui sont faites actuellement aux États-Unis, on utilise...
Inspirés par des économistes français.
Oui, mais ils sont inspirés par eux-mêmes aussi.
Et qui sont parfois éreintés aussi. Hein, Emmanuel XVI et Gabriel...
C'est un débat, c'est une lutte d'idées, c'est normal, c'est parfaitement normal qu'il y ait discussion. Mais en attendant, ce sur quoi je veux insister, c'est que les propositions d'impôt progressif sur la fortune qui sont faites par Sanders et Warren, avec des taux d'imposition qui peuvent atteindre 6%, 8% par an sur les milliardaires, donc beaucoup plus élevé que tous les impôts sur la fortune qu'il y a eu en France dans le passé. Je note quand même pour ceux qui n'ont pas noté l'information. Mais toutes ces recettes sont utilisées. Pourquoi? Pour investir dans la santé, pour investir dans l'enseignement public. C'est-à-dire, il y a un problème de dette étudiante aux États-Unis considérable. Et si on veut renouer avec la croissance aux États-Unis, moi je pense pourquoi la croissance a été divisée par deux aux États-Unis et en Europe? Parce qu'on a arrêté d'investir dans l'éducation. On a eu une stagnation de l'investissement en éducatif à partir des années 80-90.
Thomas Piketty, à quelques minutes de la fin de cette émission, quand même votre regard sur... Là, on est à mi-quinquennat. Votre regard sur la France. On a un président qui était candidat et qui parlait de l'égalité des chances. C'était ça le programme, qui parlait de dédoubler les classes de CP. Quel est votre regard sur l'action du gouvernement aujourd'hui?
enfin, l'égalité des chances, on a un système où on investit trois fois plus de recettes publiques par étudiant dans des classes préparatoires aux grandes écoles, dans les grandes écoles, dans les universités. Donc moi, je pense qu'il faut pas retirer aux grandes écoles, mais il faut investir beaucoup plus dans l'université, dans les IUT, dans les BTS. On a porté une beaucoup plus importante proportion de classes d'âge au niveau du bac, ou beaucoup de bacheliers technologiques, mais on n'a pas créé les places ensuite pour qu'ils puissent se former. Donc là, on crée les conditions d'une très grande frustration et puis d'un très grand gâchis. Et donc, je pense que au lieu de dépenser 5 milliards d'euros pour réduire l'impôt sur la fortune, faire la flat tax sur les dividendes, vous savez, 5 milliards d'euros, c'est la moitié du budget total de l'enseignement supérieur. On aurait pu augmenter de 40 ou 50% le budget total de l'enseignement supérieur, créer des places en IUT, en BTS, et je pense que c'est ça qui fabrique la croissance de demain. Donc moi, on a besoin d'une société qui repose sur la circulation des savoirs, des pouvoirs,
la propriété. Et c'est pas ce qui est en train de se passer depuis 2017, qu'est-ce qui se passe, si vous devez le qualifier?
Concrètement, le choix stratégique qui a été fait, c'est de consacrer les marges budgétaires, les faibles marges budgétaires qui existaient au début, sur la suppression de l'impôt sur fortune, la flat tax sur les dividendes. Donc ça revient à faire une très forte baisse d'impôts pour des personnes qui sont principalement des personnes âgées, détenteurs de patrimoine, donc disons des septuagénaires, sexagénaires, détenteurs de patrimoine importants. Il y a aussi quelques trentenaires, mais qui n'étaient pas forcément dans le besoin et qui n'en avaient pas forcément besoin. Bon, moi, j'ai rien contre les septuagénaires âgés, mais juste, vous comprenez que si vous consacrez le peu de marge de manœuvre budgétaire que vous avez à ce groupe-là, et que vous dites, moi, je suis pour dynamiser le pays, il y a une contradiction. Et quand ensuite vous augmentez les taxes sur les carburants, vous augmentez la CSG sur les retraités. Oui, ma mère, elle est institutrice à la retraite, elle a payé une augmentation de CSG. Si ça avait été pour une bonne cause, vous voyez, pour investir dans l'éducation, pour s'attaquer enfin à la transition énergétique, au réchauffement climatique, pourquoi pas? Mais si c'est pour financer la suppression de l'ISF, forcément ça a créé un grand mécontentement dans le pays.
Ça s'appelle Capital et idéologie, c'est publié au Seuil et c'est signé Thomas Piketty. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.